avant de parler FootUS, un petit mot sur Occupation, l'autre podcast TDA Media qui tourne en ce moment sur toutes les plateformes de podcast. L'épisode 2 de la saison 2 est en ligne, cette fois direction l'Espagne, où je suis allé à la rencontre de Jérôme, un expatrié français. Comment on déménage à l'étranger? Est-ce qu'on a parfois le blues? Est-ce qu'on mange bien en Espagne? Les histoires de paperasse, les histoires de sentiments. On a parlé de tout ça. Comme d'habitude, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller y jeter une oreille et à vous abonner. Cette Occupation au pluriel sur toutes les plateformes de podcast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We got trips right, 864, H-Drag on. Rap, rap.
Big Brown, Richmond, 96 double, 96 double. Richmond, Florida, Buffalo, 97 double. Hot, hot.
Right, empty backfield, shotgun Smith. Saints bring extra men out. He's going to boot to his left and run. He's going to run it 20, 15, 10, 5, touchdown. Do you believe it?
Hello, hello. On essaie de le faire un tout petit peu moins fort parce qu'il est 2h du matin. Bonjour et bienvenue à tous pour l'événement NFL du printemps. C'est le premier tour de la draft. Nous sommes en direct comme l'an dernier pour vous faire vivre cet événement. Merci encore une fois d'être avec nous. Sans plus attendre, messieurs, dames, laissez-moi vous présenter l'équipe nombreuse qui va être à mes côtés ce soir pendant 3h, cette nuit même pendant 3h. À ma droite, il est notre spécialiste draft, Guillaume Soquet. Salut Guillaume. Que vous avez déjà entendu donc dans le premier podcast de présentation de la draft. Responsable du chat et des alertes pour les trades, il hurlera quand il se passe quelque chose, il relayera vos avis tout au long de la nuit, c'est Raphaël Masmejean. Salut Raphaël.
Salut à tous.
À la technique, fidèle au poste, Camille.
Salut.
Camille Sarabène, bien sûr. Et puis on fait un petit coucou à Joanne Deveau qui est aussi avec nous pour gérer le site pendant que nous on vous parle. Lui s'occupe de mettre les news sur le site. Voilà, les présentations sont faites, on est là pour 3 heures de direct. On espère que vous avez stocké de quoi tenir debout, du coca avec de la caféine dedans, du Red Bull, de la caféine, du café normal d'ailleurs, ça marche aussi. On vous rappelle brièvement les enjeux, 32 choix de draft à venir, 10 minutes pour choisir à chaque fois. Les Chiefs ont le premier choix de la draft, la nouvelle est tombée il y a quelques heures, il y a 2 heures, quelque chose comme ça. Eric Fisher serait le premier choix de la draft, ça va se confirmer. Les Jets, les Rams et les Vikings ont 2 choix au premier tour, les Seahawks, les Redskins et les Buccaneers n'ont pas de choix au premier tour suite à des trades. Donc ces équipes n'ont plus de choix, on l'a dit, à cause d'échanges, devrait y en avoir encore pas mal comme l'an dernier à cause des salaires limités des rookies. Vous manquerez rien de ces échanges, on a tout. Quand il y aura un trade, vous entendrez ça. Ça me paraît assez net. Pour les échanges, on annoncera l'arrivée de Roger Goodell comme ceci. Et donc, vous ne manquerez rien. Voilà, on a donc tous les sons pour signaler tout ça. On espère que vous êtes en forme, Raphaël. Premier détour par le chat.
Ouais, premier détour et beaucoup, beaucoup de monde ce soir. On a rarement vu ça sur le chat. A priori, on serait à 116 connectés. Donc, merci à tous d'être là.
À 2h du matin, c'est pas mal. On salue votre courage. Merci à vous d'être là. Et on va faire souvent appel à vous. Donc, restez bien scotchés. Un mot avant de commencer cette draft. Guillaume, on va parler un peu du niveau général de cette draft. Une draft très, très incertaine. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être là.
Ouais, c'est pour ça. Elle est vraiment très, très homogène. Et c'est pour ça que, ben, passé le premier pic qu'on a eu les infos il y a quelques heures, on sait absolument rien de ce qui va se passer là dans quelques minutes.
Ouais, c'est assez exceptionnel quand même. On ne sait pas qui va être le premier choix. On sait, alors maintenant, on le sait, mais on ne sait pas qui va être le deuxième choix. On ne sait pas quel quarterback va être choisi en premier, même si on pense que c'est Geno Smith. On ne sait pas quel quarterback va être choisi en deuxième. Quand ils seront choisis, combien il y aura de quarterback au premier tour. C'est quand même la grosse incertitude. Donc on part quand même dans une soirée pleine de surprises. moins de star power entre guillemets que l'an dernier, mais plus de surprises, plus d'homogénéité, peut-être plus de trade du coup, parce que ça se joue à pas grand chose, chacun va aller chercher le bonhomme qu'il veut, quoi.
Ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes en haut de la draft qui ont envie de trader de toute façon, donc je pense qu'elles seront prêtes à accepter des compensations qui seront moindres de toute façon, pour justement avoir le bon fit à la bonne position dans la draft.
Alors, Eric Fisher, on l'a dit, on le rappelle, Eric Fisher qui est un joueur en provenance de Central Michigan, hein, si je dis pas de bêtises,
c'est
ça. Donc qui est un offensive tackle, qui devrait être le premier choix des Chiefs, c'est la rumeur qui court depuis une petite heure ou deux, on espère avoir la confirmation rapidement, pour l'instant personne n'est sur le podium, comme l'an dernier, donc on va vous détailler tout ce qui se passe durant cette soirée, pour l'instant, et ben voilà, c'est l'entrée de Roger Goodell, d'ailleurs j'avais un petit truc pour lui, pour Roger Goodell.
Ah, je pensais que t'allais lancer les boues.
J'avais un petit truc marrant, je sais pas pourquoi. Ça me faisait penser à ça quand il arrive. Donc, Roger Goodell est sur le podium. Et comme d'habitude, bien sûr, il remercie tout le monde. C'est l'occasion de vous remercier encore une fois, nous, d'être là. On rappelle aussi, hein, si vous lâchez pendant la retransmission, vous pourrez nous réécouter en podcast demain matin, tout sera téléchargeable, donc on vous en veut pas si vous vous endormez après 4 ou 5 choix ou après le choix de votre équipe, tout sera disponible en podcast demain. Et là, pour l'instant, bien sûr, Roger Goodell en est aux félicitations habituelles, voilà, il affiche la solidarité avec Boston suite aux événements malheureusement tragiques de la semaine dernière. On va peut-être se détourner un petit peu de ces célébrations, nous, en attendant que le premier choix soit donné. Des pronostics. Alors, on va vous rappeler aussi, d'ailleurs, Raphaël, qui m'a humilié dans les pronostics pendant toute l'année, a encore les pronostics sous les yeux. Alors, il n'est pas impliqué, lui, il n'a pas fait de mock draft, mais il est là en tant qu'arbitre, puisqu'il a sous les yeux la mock draft de Guillaume, ma mock draft personnelle, donc les deux qu'on a fait pendant le podcast. Je tiens à préciser que j'ai un peu modifié la mienne, vu que j'avais un choix en double et une équipe qui avait rien. Donc bon, je l'ai un petit peu modifié, mais à minima. Et il a la mock draft du site aussi, qui est celle de Johan. Et donc du coup, Raphaël va noter toutes ces mock drafts et on va voir si on est mauvais. Déjà, si Eric Fisher est le premier choix, ça nous met déjà tout en l'air.
Ouais, effectivement.
Pour tout le monde. On a Joe Montana qui est sur le podium de cette draft. Joe Namath, pardon.
Oulala.
Excusez-moi, une fois qu'ils vieillissent, ils se ressemblent tous. Hein. Et John Emmett est content, c'est parce qu'il n'a pas encore vu jouer les Jets cette saison. Et apparemment, c'est parti, voilà, pour le Super Bowl. Alors oui, qui est on the clock, c'est le Super Bowl pour l'instant. Bon. New York accueillera le Super Bowl dans 282 jours, 22 heures, et puis il y avait carrément le décompte jusqu'aux secondes. Ah, Roger Goodell qui profite de ne pas être sifflé cette année, il n'y a pas de lockout, il n'y a rien, c'est vrai qu'il avait été pas mal... Et voilà, la draft est ouverte, ce qui veut dire que les Chiefs vont être on the clock. On va utiliser le terme souvent hein, ce soir. C'est dur à traduire.
On the clock.
Voilà, c'est leur tour. Allez, c'est le tour des Chiefs. On va essayer de franciser. Donc c'est au tour des Chiefs. Ils sont sur l'horloge. Ils ont 10 minutes pour choisir. Et donc on devrait avoir la confirmation d'avoir un Eric Fisher, ce qui va me permettre de hop, aller chercher ma petite fiche Eric Fisher en attendant d'avoir la confirmation. Mais bon, ça me paraît, on va en discuter un peu dès maintenant, ça paraît être un choix logique vu que Brandon Albert est sur le départ.
C'est vrai que la logique voulait que ce soit un des deux offensive tackle présent dans cette draft.
Alors pourquoi Fisher plutôt que Jokel?
Alors Fisher est un peu plus physique que Jokel, notamment dans le jeu de course. On se rappelle, à Philadelphie, Andy Reid aime bien des linemen qui sont plus physiques que finesse. Et le choix a une certaine logique dans ce sens-là.
Alors, les Chiefs, on rappelle quand même, énorme intersaison. Alex Smith est arrivé au poste de quarterback. Ils n'ont plus besoin de ce côté-là, parce que c'était quand même un sacré besoin avant la saison, hein, on rappelle, avant l'intersaison, puisqu'ils étaient coincés avec Matt Cassel et Brady Quinn.
Mais c'est un exemple vraiment de l'effet d'un quarterback qu'a sur une équipe, parce que les Chiefs sont pas une mauvaise équipe. Ils sont 6 Pro Bowlers, même si le Pro Bowl a ses défauts, ils ont quand même de la qualité dans leur équipe, et rien que le quarterback les a fait aller tout en haut de la draft.
C'est un numéro 1 de la draft. Enfin, ils ont le premier choix de la draft, les Chiefs, mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise équipe. Ils ont quand même des atouts. On le verra, on va décortiquer au fur et à mesure des choix de cette draft les besoins des équipes. Et c'est vrai que les Chiefs ne sont pas l'équipe qui a le plus de besoins, finalement.
Non, absolument. Je pensais même qu'ils pouvaient s'illustrer dans leur division l'année dernière. Mais le poste de quarterback était tellement lamentable, a priori, qu'il n'avait pas beaucoup de chances de s'illustrer cette année.
Donc, ça discute toujours. Hein. Les Chiefs ont dit qu'ils ne dévoileraient pas leur choix avant le dernier moment parce qu'ils essayent quand même de gratter un éventuel trade. Ça paraît quand même mal engagé pour l'instant. On rappelle hein, encore une fois que peut y avoir beaucoup d'échanges. Aussi parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui ne sont pas spécialement enthousiasmées par ce qui se présente devant elles. Donc ça peut beaucoup bouger. Parmi les rumeurs de la soirée, on va aussi rappeler ça, on a le numéro 3 des Raiders qui serait un gros point de négociation actuel. Donc ça pourrait être un des points de négociation actuel. Les Browns étaient en rumeur pour monter. Tavon Austin est un des noms qu'on a aussi entendu beaucoup ces dernières heures, qui serait susceptible de ne pas passer les Jets avec le choix numéro 9, puisque eux seraient très intéressés. Donc pour choper Tavon Austin, il faudrait monter avant les Jets.
Len Johnson est aussi un nom pour lequel il faudrait monter dans la draft, au moins dans le top 10.
Len Johnson, donc le numéro 3, enfin le troisième left tackle. Le troisième left tackle de cette draft. Voilà, ça fait beaucoup de noms qui ont pas mal bougé. Les Browns, donc on en a parlé pour monter en troisième, on en a parlé aussi qu'ils chercheraient un quarterback, comme quoi Jason Campbell n'est pas la solution à tous leurs problèmes.
Jason Campbell ou Brandon Whedon aussi, de toute façon. Jason Campbell a été recruté par le régiment court, Brandon Whedon, c'était pas le cas. Souvent les nouveaux régimes veulent leur propre quarterback pour démarrer leur franchise.
On attend donc toujours le choix des Chiefs, ça discute encore. Nos collègues d'ESPN, John Gruden est très heureux, on nous montre des photos du Pro Bowl. 6 Pro Bowlers, c'est vrai, il faut le rappeler, hein, les Chiefs, pas un mauvais effectif. Bon, il y a un punter sur les 6 Pro Bowlers, mais il y a quand même des bons pass rushers, il y a quand même Eric Berry, il y a quand même Jamal Charles, il y a quand même des qualités hein, dans cette équipe. Et ils vont renforcer encore leur ligne. Pourquoi pas garder Brandon Albert d'ailleurs pour la profondeur ou pour le mettre à droite, il sera pas content, mais...
Il sera pas content et il sera pas gardé, en tout cas il voudra partir, il sera difficile à re-signer si on le met à droite.
J'en profite aussi en dernière minute d'ailleurs pour rappeler que si vous n'êtes pas sur le chat, vous pouvez réagir sur Twitter, @touchdownactu.com. Raphaël a aussi ça devant les yeux car il est multitâche et qu'il peut répondre et lire vos messages partout. Parce que je vois le Twitter s'exciter sur l'écran de Raphaël. Donc c'est qu'il y a des messages, n'hésitez pas à y aller. Raphaël, quelques impressions là, tout le monde sent Eric Fisher, je suppose, sur le chat.
Ouais, c'est beaucoup sent Eric Fisher, par contre. Peu ont l'air convaincus par ce choix, beaucoup ont l'air de préférer Jokel plutôt que Fisher. Après, bon, ça a l'air d'être. Mais il faut dire que les Chiefs n'ont pas l'air de passionner grand monde, quand même, malheureusement.
Alors, il y a des fans de qui, tiens, d'ailleurs, sur le chat. Manifestez-vous un peu, dites-nous qui vous attendez le plus au niveau des choix. Envoyez ça tout de suite, vas-y, Raphaël, dis-nous ce que vous avez en immédiat.
Titans, Cardinals, Rams, Cleveland, Ravens, Giants, Steelers, tout le monde est représenté.
Vous attendez tous le milieu de la draft.
On a un Chiefs qui se balade là-dedans.
Alors vous attendez tous le milieu de la draft, grosso modo on est content, ça veut dire que vous allez tous rester avec nous quasiment jusqu'à la fin, quoi. On est ensemble jusqu'à 5h du matin.
On nous demande pour quelle équipe tu es, Alain. Je crois que le peuple Touchdown Actu attend la réponse.
J'ai vu un t-shirt.
Pendant la préparation et le montage de cette émission et du matin, je portais un t-shirt, mais je suis passé en chemise, donc plus personne ne sait qui je supporte. Et d'ailleurs, c'était même pas un t-shirt de l'équipe que je supporte. Mais pour être très honnête avec vous, puisqu'on est entre nous et qu'on a un peu de temps en attendant le choix des Chiefs, je vais vous dire que mon petit côté journaliste fait que des fois, je vibre pour la bonne histoire et le bon titre à la fin. Voilà. On va dire ça. Donc j'ai pas de mal des fois à retourner ma veste. C'est mon petit côté. Mais à une époque, mes équipes préférées étaient marquées sur le profil du forum et quelqu'un l'avait fait remarquer d'ailleurs. Et du coup, je les ai enlevées depuis pour entretenir le doute.
Mon impartialité, voilà.
C'est ça, pour être sûr que je me fasse pas accuser d'être partial. Bon. Mais je pense qu'on est plus dur avec l'équipe qu'on supporte en général dans ces cas-là. Non,
j'aurais
tendance
dire.
À être plus. plus dur. Bon, on attend toujours les Chiefs, qui décidément mettent un temps fou à se décider sur ce premier choix. Nous, on a envie de démarrer, là, on est parti. Donnez-nous des joueurs, on attend. J'ai la fiche d'Eric Fischer sous le nez, je suis prêt à la lire. Dès qu'il sera sélectionné, on est prêt à envoyer notre petit choix, on est prêt à envoyer des petits jingles, on est prêt à se marrer des choix, par exemple. Attendez, regardez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. Hein, ça, on attend le choix des Raiders, en général.
Espérons qu'il change un petit peu.
Alors, on a celui-là aussi parce qu'on parlait d'équipe à supporter. On sait que Guillaume, lui, par contre, est plutôt Jaguars. Mm-hmm. On sait qu'on a ça quand ils vont sélectionner un left tackle.
Absolument.
Bon, donc, je suis préparé. On a du bruitage de près, ne vous inquiétez pas. Et là, on entend de l'agitation derrière Roger Goodell. Camille va peut-être nous monter un petit peu le son quand Roger Goodell va monter sur le podium. Non, il est toujours pas là, Roger Goodell, c'est fou. Ah, on voit 2:30, il reste 2 minutes 35. Voilà, cherchez l'horloge des yeux depuis tout à l'heure. Elle est pas très en vue cette année, elle est dans un coin. On va pas la voir souvent, à mon avis. Donc, Raphaël, des avis. On a toujours des équipes qui rentrent là.
Toujours les Eagles reviennent pas mal. Les Packers aussi sont pas mal. Après,
sur Twitter, on va prendre vos réactions un peu. Est-ce qu'il y en a?
Il y a Clyde qui lui pense que tu es pour les Chiefs vu les pronos que tu as fait l'année dernière.
Non, cherchons encore.
Après,
pour l'instant sur Twitter, on a des messages pour nous dire que ça démarre. N'hésitez pas encore une fois, hein, si vous n'êtes pas sur le chat, il y a Twitter @touchdownactu.com. On va balancer quelques photos de la soirée aussi que vous nous voyez en action. C'est Johan qui est en charge des photos pendant qu'on est à l'antenne. Il va vous en faire quelques-unes. Je crois qu'on a déjà balancé Camille qui était à la technique et qui était prêt, si je dis pas de bêtises. Voilà, bon, vous l'avez compris, on meuble un peu parce que les Chiefs mettent un temps fou à décider un choix qu'ils ont fait il y a 2 heures. Donc,
voir plus tôt.
Voilà, donc c'est quand même assez étonnant. Mais. Alors, les caméras se placent, le monsieur, il a son talkie-walkie, il a la carte devant les yeux, il est en train sûrement de prévenir. Alors, on vous rappelle d'ailleurs qu'on va attendre, nous, on ne donnera pas les choix en dehors des trades qui tomberont sur Twitter. On va donner seulement quand Roger Goodell les donne, parce que vous avez répondu que vous vouliez ça en majorité sur un sondage qu'on a fait sur le site. Et donc, on va se tenir à ça, et c'est d'ailleurs ce que fait ESPN et ce que font NFL Network, c'est que leur journaliste ne donne plus les choix sur Twitter. Et ils ne filment plus les joueurs au téléphone avant les sélections, ce qui veut dire que on est censé découvrir le choix au moment où Roger Goodell le donne, et ce qui est quand même plus sympa parce que ça fait quand même un meilleur show télé. Les joueurs au téléphone, c'était quand même devenu insupportable.
Oui, c'était franchement lourd, et c'est beaucoup mieux que Roger Goodell nous donne la surprise.
Et puis l'an dernier, c'est vrai que c'est Twitter qui avait fait l'entre-deux. Roger Goodell arrive enfin sur le podium et c'est notre alerte choix que vous avez pour la première fois. On l'aura 32 fois. In the 2013 NFL draft, the Kansas City Chiefs select Eric Fischer, tackle, Central Michigan. Et c'est donc bien Eric Fischer. On y arrive donc, un offensive tackle de 22 ans, senior de Central Michigan, 2m03, 138 kg, une belle bête. Position estimée, donc, c'était en tout début de draft. Il est premier de notre top 50 qu'on avait fait, que Johan avait fait, on le salue parce qu'il est à côté de nous. Le top 50 des joueurs qui se présentaient à la draft, c'était le numéro 1. Il part en numéro 1, c'est donc logique, apparemment, Guillaume.
Oui, c'est logique. En même temps, Fischer et Jokel étaient 1A et 1B, c'était vraiment une question de préférence. Par rapport à son système, je vais souvent le dire pendant cette draft, parce qu'elle est tellement homogène, c'est vraiment une question de préférence par rapport au système que vous jouez. Comme je l'ai dit, Jokel est plus finesse, Fischer est plus physique. Andy Reid préfère les linemen physiques et massifs.
Il aura donc son lineman physique, ce cher Eric Fischer, qui donc visiblement pousse Brandon Albert vers la sortie, puisque Albert est en partance pour Miami. S'ils arrivent à trouver une compensation, ça pourrait se faire pendant cette soirée aussi, on ne sait jamais. En tout cas, donc, c'est pas un quarterback, c'est la première fois depuis longtemps. Je suis désolé d'ailleurs, malheureusement j'ai pas la stat devant les yeux, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un non-quarterback sélectionné. Je pense que c'était depuis Jack Long en 2008.
Jack Long,
c'était avant. Voilà, merci à Johan qui nous fait les archives et qui me dit un grand oui. Donc c'était Jack Long en 2008, le dernier non quarterback sélectionné en première position de la draft. Donc voilà, c'est quand même un petit événement en soi, ce qui prouve aussi qu'on n'a pas de quarterback défini dans cette draft de superstar.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un quarterback qui s'illustrera à l'année de Jack Long, Matt Ryan et fini à 3.
Ouais, était 3e. Et d'ailleurs, Miami regrette sûrement de ne pas l'avoir pris en 1 cette année-là.
Absolument.
Donc, l'ami Eric Fischer qui est face caméra avec une belle casquette avec marqué Kansas City en dessous, c'est un peu chargé tout ça. Je sais que vous avez adoré l'an dernier l'instant fashion qu'on faisait de temps en temps, hein, donc on vous les donnera encore une fois, ne vous en faites pas, quand ils seront habillés de manière spéciale, on les fera. Eric Fischer, donc pas d'originalité à part la petite poche, à part la petite pochette.
Ouais, le petit mouchoir à bande.
Interview, donc je vais vous transcrire un peu ça et vous donner un œil sur ce que dit l'ami Eric Fischer. Alors voilà, notre confrère d'ESPN. Alors, il ne peut pas comprendre ce qui vient d'arriver. C'est un rêve qui devient réalité. Voilà, il ne peut pas comprendre le fait d'être numéro 1 de la draft. C'est un honneur, c'est un honneur. Et il est heureux d'être un Chiefs. En tout cas, au moins ce soir. Non, ça, il ne l'a pas dit, c'est moi. Alors, le téléphone, voilà, il était avec le coach, le GM. Il a parlé avec plusieurs personnes, il était un peu effrayé. Voilà, ils ont rappelé, il est content. Voilà, et le téléphone a marché, apparemment il a eu un peu peur la première fois, ça n'a pas marché. Mais il est content, un discours très classique, hein. On ne va pas avoir de grandes originalités avec les discours des choix de draft d'aujourd'hui, ce cher Eric Fischer, il est content. Au programme maintenant, c'est un moment un peu spécial pour Guillaume, on l'a dit, ce sont les Jaguars qui sont donc on the clock, c'est leur tour. Leur besoin, ça pourrait être un quarterback, ça pourrait être un defensive end, des cornerbacks, des safety éventuellement.
Quasiment tous les postes de la défense ont besoin d'un upgrade.
Clairement, vous pouvez prendre le meilleur joueur disponible.
Au lieu d'offensive tackle. Pour, voilà, on a vraiment un left tackle qui est bon, qui est prêt d'être élite, qui a 26 ans, qui est pas vieux, et c'est vraiment la sélection qui aurait pas beaucoup de sens.
Geno Smith, ce serait pas mal.
Ce serait bien. Ça voudrait dire en tout cas que la fin de Ben Gabbert, peut-être, même sûrement, mais en tout cas ça voudrait dire que les évaluations qu'on entendait jusqu'à présent n'étaient peut-être pas justifiées et que Geno Smith a le potentiel, comme un Matt Ryan par exemple, de devenir quelque chose.
Ouais, et puis bon, c'est vrai que... Alors, d'ailleurs, ils n'ont qu'un an d'écart, Geno Smith et Ben Gabbert. Ben Gabbert est juste un an plus vieux, bon, mais malheureusement c'est vrai que l'autre l'enterrerait déjà s'il arrivait. Les dernières rumeurs, c'est donc que ce serait un left tackle, mais on l'a dit, cette draft est très imprévisible.
Il y a une rumeur assez récente qui a été diffusée aujourd'hui et peut-être hier sur Ezekiel Ansah.
Oui, alors Ezekiel Ansah qui est aussi un des noms qui sont montés très vite ces derniers jours, donc ça peut se faire aussi, pourquoi pas. Raphaël, des réactions un peu là sur ce Eric Fischer qui s'est confirmé?
Eric Fischer, donc bien évidemment personne n'a été surpris vu qu'on a annoncé ça sur le site il y a déjà pas mal de temps en début de soirée. Après, par contre, au niveau des Jaguars, donc le pick qui s'annonce, les gens ont vraiment l'air d'hésiter entre soit Jokel, soit Geno Smith pour les Jaguars. C'est un peu la tendance sur le chat, en tout cas.
On va arriver à l'instant pronostic. Maintenant, on va se marrer. On va pronostiquer un petit peu avant chaque choix. Donc, un petit point sur nos mock drafts. D'ailleurs, je crois qu'on est tous à zéro, vu que personne n'a vu venir Eric Fischer.
C'est ça, personne, que ce soit toi ou Guillaume ou même Johan à travers le site.
Je crois que le choix annoncé sur toutes nos trois mock drafts, c'est Geno Smith en 2.
C'est ça, Geno Smith en 2 pour les Jaguars.
Tout le monde a annoncé Geno Smith en 2. On va voir si ça en prend le chemin. Là, je sens de l'hésitation.
Il n'y a pas beaucoup de rumeurs, mais en même temps, les Jaguars ont annoncé dans leur communication que les seules personnes qui connaissaient le pick, c'était Gus Bradley, Dave Caldwell et le propriétaire Chad Khan. Donc, les sources, les rumeurs, je ne suis pas sûr que ce soit peut-être crédible.
Bon, en tout cas, on rentre dans le vif du sujet. On a connu le premier choix 2 heures avant la draft. Maintenant, plus rien n'est sûr, tout va se passer en direct et tout va être incertain. Les Jaguars sont sur l'horloge, il leur reste... Alors, ils viennent tout juste de démarrer l'horloge, ils nous font comme l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils démarrent très très loin. Il reste 9 minutes 40 aux Jaguars pour choisir leur joueur, donc ils viennent de démarrer l'horloge il y a 20 secondes. Donc comme l'an dernier, ils démarrent l'horloge une fois que le mec a été choisi, qu'il a dit bonjour à Roger Goodell, qu'il a été interviewé, qu'il a enfilé son maillot, qu'il nous a montré son costume pour qu'on le commente. Donc les Chiefs sont sur l'horloge. les Jaguars, pardon. Les Chiefs, c'est fini. Donc, on l'a dit, plutôt Geno Smith, left tackle, parce que donc, le left tackle actuel, c'est
Eugene Monroe.
Eugene Monroe, donc lui passerait à droite.
Ce serait plus le rookie qui passera à droite, parce que Eugene Monroe est quand même prouvé, il a montré pendant plusieurs années que c'est un bon left tackle, ce serait étonnant qu'il se fasse battre au training camp par un rookie aussi bon qu'il soit dès le départ.
Ouais, alors là on est vraiment, encore une fois, dans l'inconnu, parce qu'ils ont peut-être aussi envoyé des écrans de fumée sur cette histoire de left tackle, peut-être que c'était un peu
possible.
Pour...
Il y a une possibilité de trade down également, s'il y a quelqu'un qui aime vraiment Geno Smith ou même Luke Shokel.
Alors on va rappeler d'ailleurs c'est que cette possibilité d'échange vers le bas, je crois qu'elle est là pour tout le monde cette année. Apparemment tout le monde veut descendre, donc des possibilités d'échange, il y en a absolument à tous les étages. Des pronos sur ce choix. Non, c'est un monsieur qui gère l'entretien. Raphaël a cru voir Roger Goodell arriver, mais non, c'était le monsieur de l'entretien, il faisait le ménage. Raphaël, donc, des pronostics un peu sur le chat.
Bah, comme je t'ai dit, hein, c'est vraiment partagé entre Geno Smith et Jokel, il n'y a pas beaucoup d'autres noms qui sortent. J'en cherche, mais ouais, non, Smith vraiment, pour Jokel, le coup.
Bon. Diane Jordan est une possibilité.
Ouais, Jordan avait été considéré revenu, comme une...
deux, trois fois.
Comme une possibilité. Donc, en deçà... Ah, bah le voilà, notre ami Roger Goodell. On va l'écouter. Avec le deuxième choix, ce sera donc NFL draft, the Jacksonville Jaguars select Luke Jokel. Et c'est donc Luke Jokel, le left tackle de Texas A&M. Guillaume est dépité, donc je vais assurer le commentaire à l'espace d'une seconde. Luke Jokel est un left tackle de 21 ans qui sort donc de Texas A&M, on vient de le dire, 1m98 pour 141 kilos. Il était censé sortir dans le top 5, il était 3ème de notre top 50 des meilleurs joueurs. Donc Luke Jokel, eh bien le choix des Jaguars, c'est une... petite surprise quand même, parce qu'il y avait des besoins ailleurs, non?
C'est un bon joueur. Ils adressent un groupe qui était quand même...
C'est un peu de la frilosité de la part du GM quand même.
C'est drafté avec la peur au ventre, on va dire. Ouais. On fait pas confiance à son scout, à ses scouts. Non, c'est... C'est assez décevant parce que on a assez peu de pics, on a la possibilité d'adresser des groupes comme la ligne défensive, le QB. Je pense que on met trop de pics dans un groupe qui peut être réparé de façon plus simple et de façon moins chère.
Ouais, non, c'est vraiment même moi, bon, qui alors on voit, tiens d'ailleurs, Luke Jokel avec le nouveau maillot des Jaguars, c'est l'occasion de le voir. En vrai, ce nouveau maillot, c'est pas mal, mais ça va falloir s'habituer, c'est comme les Seahawks, hein, l'an dernier. La police d'écriture est assez étrange. Bon, donc oui, Luke Jokel, c'est vrai que moi je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment drafter la peur au ventre. J'avais lu hein, aujourd'hui qu'il voulait pas prendre de risques et qu'il voulait pas louper son premier choix, puisque c'est un nouveau GM. Donc voilà, il fallait un joueur solide, une pierre angulaire de franchise, voilà, je voulais pas dire le mot en anglais qui était cornerstone, mais bon voilà, il voulait un joueur imposant qui marquera son équipe. C'est peut-être ça, c'est comme Jack Long en 2008 quand il est arrivé chez les Dolphins.
Ah, mais aujourd'hui les Dolphins,
ils ont besoin
d'autre où ils
chose.
Sont
voilà.
Aujourd'hui les Browns qui ont drafté j'ai oublié le nom de l'offensive tackle des Browns, peut-être que le chat peut m'aider. Mais...
Oui, Joe Thomas.
Joe Thomas, où sont les Browns aujourd'hui? Au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir peur de piquer des prospects risqués, des quarterbacks, parce que quand vous n'en avez pas, c'est votre besoin le plus important de toute façon. C'est vraiment, il y a vraiment un problème de valeur. Il y a trois excellents right tackles qui sont encore disponibles en free agency. Il y a beaucoup, beaucoup de tackles dans cette draft. Elle est très profonde à ce poste-là. On aura deux All-Pro aux deux postes de tackle.
Vous aurez deux bons gars pour protéger votre quarterback.
Deux bons gars pour protéger deux defensive ends. Si on blitz Gabbert, il aura toujours quelqu'un dans la tête.
J'allais surtout dire deux bons gars pour protéger un quarterback médiocre, et c'est peut-être
voilà,
ça le problème.
C'est ça.
Bon, ça reste le problème. Cette sélection de Raphaël sur le chat,
alors,
comment elle est analysée?
Beaucoup de remarques là-dessus. La plupart des gens sur le chat envoient leurs condoléances à Guillaume pour ce choix. Et ouais, bah, beaucoup d'incompréhension sur ce choix. Enfin, les gens se demandent pourquoi trader, pourquoi prendre, je veux dire, un joueur de la ligne offensive, alors que les Jaguars, enfin, ça a pas l'air d'être le besoin qui, enfin, le choix primordial pour relancer un peu la franchise. Donc sur le chat, c'est beaucoup d'incompréhension et de solidarité avec Guillaume.
Bon. La lune de miel avec David Caldwell est finie. Elle a duré 3 mois, mais là, c'est...
Voilà. On avait dit pour les Jaguars, malheureusement. C'est donc ça. Ah, sinon, c'était Guillaume, ça, tout à l'heure. Voilà, la tête de Guillaume quand il a pris ce choix. Bon, on va passer à des choses, des équipes sur lesquelles plus personne n'a d'intérêt ou de préférence.
C'est méchant pour les fans des Raiders.
Alors, sauf, on lui fait un clin d'œil à Romain Terrasse, notre graphiste de Touchdown Actu, à qui on fait un grand bonjour, qui est peut-être sur le chat d'ailleurs, puisqu'il modère le chat, Romain, normalement.
Ah bah, écoute, voilà, on attend qu'il nous fasse un petit coucou.
On lui fait un petit coucou depuis la Corse où il nous écoute. Et on aimerait bien être avec lui parce qu'il y fait plus chaud. On passe donc à ces Raiders, 4 victoires, 12 défaites l'an dernier. Là aussi, une équipe avec beaucoup de besoins. D'abord, defensive tackle, parce que Richard Seymour et Tommy Kelly ne sont plus là. Et là, il y a ce qu'il faut. Il y a un certain Starlo Tulele, il y a un certain Charlie Floyd. Ça peut être pas mal, là.
Il y en a pas mal. Il y a des choses à faire, effectivement. Il y a des defensive tackle, il y a Charlie Floyd, il y a Starlo Tulele, il y a également Sheldon Richardson. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec votre défense. Je suis pas forcément familier avec la défense des Raiders aujourd'hui, mais de toute façon, c'est un boulot à long terme.
Alors là, attends, je te coupe parce qu'ESPN nous met un résumé. En 2010, ils ont sélectionné Rolando McClain. Derrière, il y a eu CJ Spiller. En 2007, ils ont pris Jamarcus Russell. Juste derrière, il y avait Calvin Johnson. 2005, Fabian Washington. Juste derrière, il y avait Aaron Rodgers. 2004, Robert Gallery. Juste derrière, il y avait Larry Fitzgerald. Donc, à mon avis, il vaut mieux choisir derrière les Raiders. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même le plus simple. Donc, qui sélectionne derrière d'ailleurs? C'est Philadelphie. Philadelphie donc, va avoir un grand joueur cette année, à mon avis. Mais les Raiders, plus dur. Alors, je suis désolé, je t'ai coupé. Tu parlais de Charlie Floyd et de Starlo Tulele.
En tout cas, le boulot de Reggie McKenzie est long. Les Raiders, comme les Jaguars ou d'autres équipes, seront pas bons l'année prochaine, quelle que soit la draft qu'ils ont. Il faut vraiment prendre un joueur qui pourrait être la base de leur défense ou de leur attaque et quelqu'un sur qui ils pourront compter dans les années à venir.
Et donc là, il faut faire l'inverse des Jaguars et avoir des tripes et y aller, quoi.
Faut faire confiance à son scouting staff et y aller. De toute façon, on va dire que les joueurs les plus sûrs de la draft sont partis maintenant. Donc maintenant on est dans l'inconnu et on est à la préférence de chaque GM et de chaque coaching staff.
Ouais, c'est vrai que bon, c'était les deux valeurs sûres, c'était quand même les deux gars qui viennent de partir. Donc personne n'a vraiment pris de risque pour le moment. On vient de voir à l'écran Charlie Floyd et Lane Johnson. On fait peut-être un peu durer le suspense du côté d'ESPN. Les Raiders n'ont plus que 55 secondes pour sélectionner. Avant, on serait beaucoup marré parce que voilà, il y avait Al Davis. Mais c'est plus le cas. Donc, les pronostics. Allez, Charlie Floyd, Starlo Tulele, ça revient, non?
C'est ça. Charlie Floyd et Starlo Tulele sont vraiment les deux gros favoris pour ce pic des Raiders.
Il y a un mauvais choix. Il y a un vieux monsieur qui fait le choix. C'est peut-être encore Al Davis, finalement. Hein. Non, sauf que lui, il parle, donc c'est pas Al Davis. Guillaume, est-ce qu'il y a un mauvais choix entre Starlo Tulele et Charlie Floyd ou les deux, c'est des bons?
Ma préférence, c'est Starlo Tulele. J'avais mis Charlie Floyd dans les gens qui étaient un peu surcotés. Maintenant, je peux comprendre que Charlie Floyd soit le choix.
Alors, Starlo Tulele, on l'avait dit, l'histoire des problèmes de cœur qui ont été soupçonnés pendant le combine. Il avait été testé, il avait un petit souffle au cœur. Finalement, c'était rien de grave, donc... En théorie, il n'y a pas de raison de le faire descendre pour ça. Starlo Tulele, on le rappelle d'ailleurs, lui par contre viendra pas chercher son maillot et sa casquette sur le podium puisqu'il reste chez lui et il a dit qu'il regarderait peut-être même pas la draft, il irait faire un tour en vélo.
Il reste
et
dans sa campagne.
Voilà, apparemment il n'aime pas vraiment parler, il n'aime pas vraiment être sous le feu des projecteurs. Raphaël me fait signe.
Sur le chat, on a plusieurs de nos auditeurs qui sont en train de nous écouter. De parler d'une rumeur de trade des Raiders. Les Raiders seraient en train de trader.
Attention.
Alors, c'est un petit peu le bruit qui court.
Apparemment,
les Dolphins sont.
Avec Miami. C'est ce dont on entend parler. Et oui, apparemment, ça pourrait être les.
Ouais, les Dolphins sont annoncés un peu partout, sur Twitter, les réseaux sociaux, ça commence à
s'agiter.
Ouais. Qui vraiment les Dolphins la jouent.
Alors attention, attention, attention. Ce sont les Dolphins qui pourraient monter pour Lane Johnson. C'est ce qui est en train de nous dire Adam Schefter sur ESPN. l'homme le plus informé de la NFL. Et oui, donc les Dolphins montent en troisième position.
Les Raiders le confirment sur Twitter qui viennent de trader avec les Dolphins.
Dès que tu as la compensation, tu reviens vers nous, n'hésite pas. Donc ça va être visiblement Lane Johnson, donc trois linemen offensifs en trois choix.
C'est ça. Des positions qui sont pas sexy, des GM et des coaching staff qui sont peut-être, je sais pas, morts de trouille ou... En tout cas, ils veulent bâtir les lignes.
Alors, eux, ça veut dire aussi pas de Brandon Albert.
Oui, du coup, l'alternative est plus là et Brandon Albert, il se retrouve sur le roster des Kansas City Chiefs vraisemblablement des coachs et des scouts qui veulent pas de lui.
Alors, attention... Roger Goodell est là, Camille va nous monter le son de la télé. With the third pick in the 2013 NFL draft, the Miami Dolphins select Deion Jordan. Mais non, c'est pour Deion Jordan. C'est pour Deion Jordan, énorme surprise, belle surprise puisqu'on attendait vraiment Lane Johnson. C'est pour donc Deion Jordan, un defensive end outside linebacker de 23 ans qui sort d'Oregon, 1m98, 113 kg, on l'attendait dans le top 10. En 2012, 12 matchs, 44 plaquages, 10,5 plaquages pour perte de yards, 5 sacks, 3 fumbles forcés. Il était 5e de notre top 50, il est le 3e choix de la draft. Il a un superbe nœud papillon couleur bordeaux et cacadois. Donc Guillaume, Deion Jordan, troisième choix de la draft, est-ce que c'est une surprise à Miami?
C'est une petite surprise parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils adressent le poste de pass rusher. Maintenant, réduire Deion Jordan à un pass rusher, c'est vraiment pour le coup réducteur parce qu'il peut vraiment tout faire, il peut s'adapter à toutes les défenses, à tous les postes et il peut vraiment aider un défensif coordinateur un peu créatif pour pouvoir justement surprendre les attaques.
Bon, et ben grosse surprise des premiers joueurs défensifs. Donc, grosse surprise surtout parce qu'on s'attendait pas à ce qu'ils tradent pour Deion Jordan, hein, les Dolphins. Donc, ça va apporter quand même de l'explosivité à cette défense. Ça va être plutôt pas mal.
Et du coup, Brandon Albert est toujours d'actualité.
Et Brandon Albert, du coup, redevient d'actualité. Oui, on l'avait jeté un peu trop vite, ce pauvre Brandon Albert. Un physique très filiforme quand même, non? Pour defensive end, Deion Jordan.
Il n'est pas vraiment defensive end parce qu'il est un peu léger pour... dans le sens traditionnel du terme, c'est globalement un linebacker, mais il est très très grand, très très long, et c'est son attribut pour ce qui est du pass rush, c'est sa longueur.
Deion Jordan avec donc le nouveau maillot des Dolphins, hein, on finit les présentations des maillots aujourd'hui. Deion Jordan est donc le choix des Dolphins. Moi, je suis assez satisfait de ce choix pour eux, parce que je trouve que ça peut être pas mal pour cette défense. Et ça, par contre, c'est un choix audacieux. Qu'est-ce qu'on en pense sur le chat?
Ouais, choix audacieux qui a surpris tout le monde, vu qu'en plus, Adam Schefter, un peu avant, avait annoncé Lane Johnson. Donc,
pas si bien informé que ça, finalement.
C'est ça. Les gens sont assez surpris. Beaucoup de fans des Eagles regrettent ce trade-up parce que
son coach arrive.
Parce que beaucoup l'attendaient du côté des Eagles. Par contre, il y a Albert Breer qui nous annonce qu'a priori, donc les Raiders récupèrent le 12e choix des Dolphins. Et en plus, leur choix du second tour, qui est le choix 42, a priori.
D'accord, donc ça fait un choix de plus, hein, pour les Raiders. Donc tu nous as dit, c'est quoi? C'est le 12 ou le 16 qu'ils récupèrent?
Le 12.
Le 12, d'accord. Donc ça pourrait leur permettre peut-être de récupérer un des defensive tackles qui pourrait descendre. Peut-être.
C'est possible.
L'utilité, ça fait un peu loin, 12 quand même. Hein.
Ils étaient... alors, c'est les Raiders.
La rumeur du jour dit qu'ils préféreraient peut-être un cornerback, genre DJ, je ne sais plus comment, le pauvre.
DJ Hayden.
Oui, voilà. Ouais. Allez, je vais...
En tout cas, ça ouvre beaucoup leur choix, et au moins, ils ont un petit peu plus de possibilités au point 12.
Je vais vous dire un peu ce que dit Deion Jordan. Oui, il s'attendait pas au trade, hein, Deion Jordan. Il est heureux de partager ça avec sa famille. Ça va pas être très intéressant les interviews aujourd'hui. Hein. Et voilà, donc Jason Taylor qui apparemment l'a appelé. Et il va apporter ses qualités athlétiques à Miami. Et il est prêt à bosser. Voilà. Bon, ils sont tous prêts à bosser, ils sont tous heureux d'être là. Hein. Vous attendez pas à beaucoup d'autres choses de leur part. Bon, c'est très bien, on va pas leur demander non plus d'insulter leur nouveau coach tout de suite. Ça viendra bien assez tôt, ne vous en faites pas.
Je sens que Gino Smith aurait été peut-être un peu rock'n'roll, surtout s'il tombe.
C'est vrai.
Ouais,
c'est vrai qu'il a été un peu énervé sur Twitter aujourd'hui déjà. Hein. Il disait merci aux critiques qui disent que je peux pas être quarterback NFL. Je vais leur ce soir, c'est le début d'une nouvelle ère, etc., etc.
C'est le Kobe du football.
C'est le Kobe Bryant du football. Un petit clin d'œil à nos amis supporters de NBA qui regardent peut-être un match de playoff en même temps que cette draft dans une autre fenêtre. Donc Dion Jordan est le choix. Maintenant on passe aux Eagles. 4 victoires, 12 défaites l'an dernier. Nouveau coach Chip Kelly, l'ancien d'Oregon. Nouveau système donc en attaque, annoncé plus rapide. Besoin cornerback peut-être avec le départ d'Asamoah, même s'il est comblé par l'arrivée de Kyrie Williams. Donc pourquoi pas.
Défensive. Les Eagles peuvent aller dans beaucoup de directions.
Ligne offensive, il y a pas mal de besoins. La ligne offensive, ça paraît quand même être une grosse priorité non, pour cette équipe qui a eu du mal à protéger son quarterback l'an dernier.
Je pense que c'est beaucoup dû à la blessure de Jason Peters qui revient cette année.
Ça a pas aidé, ouais.
Voilà. Mais ils peuvent vraiment, c'est vrai, aller dans toutes les directions pour cette draft.
Bon, les Eagles donc qui sont on the clock avec déjà plus que 2 minutes 50 pour choisir. Donc ça va arriver vite le choix des Eagles. Ça y est, cette draft est lancée. On est content que vous soyez avec nous. Nous sommes donc au 4e choix. Il y a déjà eu un échange. Et donc Chip Kelly a loupé son protégé Dion Jordan. Est-ce que... Alors, on a parlé de Geno Smith aussi à Philadelphie. Est-ce que tu y crois ?
Geno Smith.
Ça paraît difficile quand même avec Michael Vick qui reste.
C'est possible, mais c'est pas forcément un fit parfait pour son attaque. Bon,
quand tu dis un fit, hein, on rappelle pour ceux qui débutent, c'est un choix,
une intégration
dans le système, voilà.
Dans le système qui sera, on va dire, bonne et naturelle.
Bon, donc les Eagles, on l'a dit, beaucoup de besoins. Un lineman offensif, ça leur ferait pas de mal. Du pass rush, ça leur ferait pas de mal non plus, même s'ils ont quelques bons gars. Cornerback, ce serait bien de combler, puisque l'expérience Nnamdi Asamoah a pas été un franc succès. À moins qu'on ait encore un échange. Non, pourquoi on amène Chris Mortensen à l'écran? Non, on dit juste donc sur ESPN hein, que Chip Kelly a loupé Dion Jordan. Des pronostics, Raphaël.
Des pronostics, donc on a un peu tout. On a Lane Johnson qui revient. On a beaucoup de fans des Eagles qui aimeraient voir Star le tous les
Lay.
Ouais, c'est ça, descendre jusqu'à.
En parlant de pronostics sur les mock drafts, il y a personne qui a un choix de bon pour l'instant toujours.
Pour le moment, non, c'est une catastrophe. National, on peut dire,
bon,
du coup.
Bon, donc, pardon, je t'ai coupé. Donc, donc du lot, tu les layes un peu.
Ouais, essentiellement du côté des fans. Surtout, les fans des Eagles qui espèrent vraiment le récupérer après. Les gens qui n'aiment pas trop les Eagles se moquent un peu et annoncent d'autres joueurs.
Alors, l'horloge a débuté sur le 5e choix déjà, donc ça veut dire que le 4e choix des Eagles doit être
dans la boîte.
Et on ne sait pas vraiment ce qu'on attend pour l'annoncer, puisque là, ça y est, bon, maintenant, ça y est, l'horloge tourne, quoi. Ça y est, ils enchaînent.
Les gens,
mais ils annoncent plus les choix.
Les équipes sont actives.
C'est un stylo aussi. Non, c'est un caméraman cette fois. Ensuite, on a le monsieur qui vient placer. Oh là là, on voit pas s'il a une moustache, mais en effet, il s'est laissé pousser le ventre aussi. Allez, n'hésitez pas encore une fois hein, sur le chat, sur Twitter. On est très content que vous soyez nombreux à nous écouter, à discuter. Là, vous êtes pas mal. Voilà, on le rappelle. Voilà, l'ami Roger est là. Et c'est moi qui vais jouer les Roger Goodell. À partir de maintenant, le 4e choix de la draft pour les Eagles, c'est Lane Johnson, l'offensive tackle. Donc, ce sera un offensive tackle. 3 sur 4 pour les offensive tackles. Lane Johnson a 23 ans. C'est un senior qui sort d'Oklahoma. Il fait 2m01, 137 kilos et il était 8e de notre top 50. 8e, mais il sort à la 4e position générale. Un joueur donc un peu en dessous des deux autres.
Un peu en dessous, mais avec beaucoup plus de potentiel. Au niveau athlétique, il postait des scores sur le combine qui étaient meilleurs que d'autres postes. Par exemple, il postait des, des sauts qui étaient meilleurs que les receveurs, il postait des vitesses qui étaient meilleures que certains cornerbacks.
C'est Lane Johnson qui est un ancien quarterback d'ailleurs, voilà. Apparemment au lycée, puisqu'on voit actuellement à l'écran sur ESPN des images de Lane Johnson au lycée, et il est devenu ensuite un left tackle. Il sera left tackle directement selon toi d'ailleurs en NFL, ou il peut passer par une adaptation à droite?
Ah, ça dépend comment Chip Kelly veut développer son attaque et le cas de Jason Peters, mais il a la possibilité de jouer left tackle. Maintenant, pour un offensive tackle, la capacité athlétique c'est bien beau, mais je pense que la technique c'est le plus important. Avoir des bons fondamentaux, et c'est ce qu'il a en moins par rapport à Fisher et Jokel. Et c'est à voir si le coaching staff est capable de le développer.
Moi j'aime bien ce choix, parce que t'as jamais, je trouve qu'on n'a jamais suffisamment de joueurs de qualité sur les lignes, donc ça fait jamais de mal de choisir un bon joueur de ligne quand il est disponible, et quand t'as déjà ton quarterback et un coureur et des receveurs, ce qui est le cas des Eagles relativement. Ils auraient pu, puisque c'était haut pour choisir un des cornerbacks, c'était haut, ils ont déjà quelques pass rushers qu'ils essaient de développer, ça manquait peut-être de linebacker, mais c'est pareil, c'était haut quoi.
J'avoue que je suis pas vraiment d'accord avec toi, parce qu'une fois que t'as ton quarterback, tu peux t'en sortir avec une ligne offensive, moyenne ou solide. Quand tu regardes la ligne offensive, en tout cas sur les extérieurs de New Orleans.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
La ligne offensive de Peyton Manning à Indianapolis. La ligne offensive d'Eli Manning même, Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers. Bon, c'est des élites quarterback, mais je préférerais avoir une élite quarterback qu'une élite OL.
C'est sûr, mais bon, là, ils ont déjà deux quarterbacks à tester, donc c'est vrai que le choix de la ligne, ça me paraît aussi être correct.
C'est une stratégie à faire, je pense pas que ce serait la mienne, dans l'absolu.
Les Detroit Lions sont les suivants sur l'horloge, ils y sont déjà, l'horloge a commencé, il leur reste 5 minutes, donc ils ont déjà utilisé 5 minutes de leur temps. Ils étaient à 4 victoires pour 12 défaites l'an dernier, une des grosses déceptions de la saison. Eux aussi auraient bien aimé avoir un lineman offensif, Jeff Bacchus est parti à la retraite, mais donc les trois principaux sont partis, ils auraient peut-être besoin de pass rush, Cliff Avril est parti, Kyle Vandenbosch aussi, un cornerback pour aider Chris Houston, un receveur pour aider Calvin Johnson, ils ont les arrivées de Reggie Bush et Glover Quinn qui renforcent un peu. Le besoin le plus urgent pour toi, ce serait
en ligne et en pass rush, donc soit un defensive end soit un offensive tackle. En l'occurrence là il n'y en a plus de disponibles, mais je pense que là le choix va se porter sur un pass rusher.
Donc là, il nous reste quand même plutôt pas mal. Donc John Jordan a été le premier à partir. Starlo Tulele et Shai Floyd, on peut peut-être les exclure parce qu'ils sont déjà bloqués avec Fairley et Sue sur les defensive tackles. Ezekiel Ansah, donc, qui pourrait être le choix.
Ou Barkevius Mingo, qui ressemble beaucoup à Cliff Avril.
Alors, moi j'ai dit Ansah le premier parce que c'était la rumeur comme quoi Jim Washburn, le coach de la ligne défensive, serait d'accord avec le choix pour choisir Ansah. Donc Ansah, phénomène physique, hein, si j'ai bien compris.
Voilà, il a joué que 8 matchs de football dans sa vie.
Ça fait peu.
Et c'est 8 matchs quand il est venu du Ghana. Il a essayé le basket à BYU, il a essayé le 200 mètres ou le 400 mètres, je ne sais plus exactement. Et il a testé le football, il a démarré en tant que remplaçant, il a fait des training camps. Au bout d'un moment, on l'a mis sur le terrain et il a montré ses capacités athlétiques qui sont phénoménales. Maintenant, ça reste un vrai projet.
Et tout ça est un espoir pour vous, messieurs, dames qui nous écoutez. Ezekiel Ansah n'a joué que 8 matchs de plus que vous. dans les faits. Donc vous avez un espoir. Donc Ziggy Ansa, et on voit que l'horloge vient de redémarrer sur le sixième choix, ce qui veut dire que le choix des Lions est en boîte et qu'il ne va pas tarder à arriver. On va prendre vos pronostics très rapidement sur le chat, Raphaël.
Alors très rapidement, effectivement, c'est le nom de Ziggy Ansa qui ressort énormément pour les Lions. Certains avaient pensé les voir descendre un peu, enfin trade down, mais apparemment ça serait du coup Ansa pour les fans, la grosse cote.
En tout cas, on salue nos confrères d'ESPN qui arrivent à ne pas montrer les choix en avance cette année, qui tiennent leurs promesses. Il n'y a vraiment aucun indice. On voit surtout leurs analystes à l'antenne. Et donc, c'est bien, ça préserve le suspense. C'est une belle émission de télé.
C'est bien exécuté, ouais.
C'est plutôt pas mal fait. On attend donc Ziggy Ansa. Donc, c'est le plus attendu, hein, tu nous as dit sur le chat, Raphaël, hein, Ziggy Ansa
ouais,
pour l'instant.
Quelques-uns citent Mingo, mais vraiment, ça semble avoir la priorité.
Nos mock drafts, elles annonçaient quoi là sur ce cinquième choix?
Eric Fischer pour toi et Guillaume, et pour Johan, Luke Jokiel, mais les deux étant déjà partis.
C'est pas sur celui-là qu'on va avoir un choix de juste, c'est une catastrophe sans nom. C'est pas possible.
Espérons avoir 5 points au moins. Peut-être,
l'an dernier, on avait quand même eu Andrew Luck et Robert Griffin de bon, quoi. C'était pas mal.
On avait montré notre talent quand même.
C'était pas mal. Bon, c'est limite s'il lui avait pas déjà floqué le maillot, Andrew Luck en plus. Les Lions ne sont plus on the clock, hein, on attend toujours leur sélection, on l'a dit. Bon, Jimmy Linner, ça paraît haut. Moi, je vois pas comment ça peut être autre chose que Ziggy Ansa, hein, ce choix. À part Mingo.
Comme je t'ai dit, le système des Lions au niveau ligne défensive aime bien des defensive end un peu légers. Mingo a beaucoup de potentiel futur. Et c'est un clone de Cliff Avril, donc ça peut être une possibilité pour le remplacer.
Bon, alors Mingo ou Ansa, c'est notre pronostic instantané, plutôt Ansa du côté de chez vous. On attend encore une fois, hein, on ne sait pas trop ce qui prépare la casquette.
Maintenant, un point qui est peut-être important, c'est que les Lions ont un vrai défaut de coaching. Je veux dire...
Un vrai défaut de discipline aussi.
De discipline, de coaching, de... un petit peu faire mettre les joueurs dans la meilleure position et les faire performer. Du coup, un joueur comme Ansa qui a besoin beaucoup de travail, est-ce que c'est un choix qui est raisonnable?
Malheureusement, aucun coach ne s'est présenté à cette draft. Et on passe à Barry Sanders qui arrive aux côtés de Roger Goodell pour annoncer le choix. Ah oui, parce qu'il vient avec la couverture de Madden dans les mains, Barry Sanders. Il vient faire sa promo en même temps. Ah, un des meilleurs joueurs ou un des meilleurs joueurs, hein. J'espère que j'ai pas entendu le meilleur joueur, parce que là ça va débattre. Donc Barry Sanders est là pour animer, annoncer le choix des Lions. Les supporters sont là, Barry Sanders va annoncer. Et donc c'est parti. Bon, alors Barry Sanders remercie les gens qui ont voté pour lui pour la couverture de Madden. Il a battu Adrian Peterson, on le rappelle, il sera sur la couverture de Madden 25e anniversaire avec le 5e choix de la draft 2013. Les Lions choisissent, c'est ce que nous annonce Ziggy Ansa, voilà, le defensive end de BYU. Cornrows, lunettes rondes de hipster.
Ouais, c'est le look hipster.
Il est hipster. Bon, alors, il n'y a pas le costume, heureusement, de hipster. C'est quand même habillé, mais il est là. Donc, Ziggy Ansa, voilà, il est content. Enfin, il est content. Il a la joie modérée, Ziggy Ansa. Donc, Ziggy Ansa, on va en parler. Donc, 22, 23 ans, on ne sait pas vraiment quel âge il a. Il y a eu quelques
polémiques. J'ai lu 24, mais enfin.
Voilà, il y a des petites polémiques là-dessus. C'est l'âge de sa fiche Wikipédia, c'est 22, 23 ans. Senior qui sort de BYU, defensive end outside linebacker, 1m96, 123 kilos. On l'attendait dans le top 10, on l'a dans le top 10. Il était 6e de notre top 50. Il sort donc à la 5e place. Il est pas loin. 13 matchs, 62 plaquages, 4 sacs et demi, 13 plaquages pour perte, une interception, 9 passes déviées, un fumble forcé. Les 9 passes déviées, ça montre un peu quand même qu'on a affaire à un sacré phénomène physique, Guillaume.
Ouais, il est très grand, il est très puissant, il est très instinctif. Il est un peu perdu sur le terrain, mais qui ne le serait pas aujourd'hui.
En 8 matchs, c'est sûr.
En 8 matchs titulaires. Mais... on le voit sur les images,
c'est une bête,
il domine ouais. Vraiment ses opposants.
C'est une bête. Alors tu parlais qu'il faut du coaching, par contre il va falloir le développer, quoi.
Voilà. C'est un petit peu comme Bruce Irvin à l'époque, l'année dernière, qui disait qu'il avait jamais appris aucun move de defensive end. Là, Hansa l'admet pas, mais ça se voit sur la vidéo. Jim Washburn a son système qu'on appelle Y9, ou que les fans des Eagles connaissent bien et un petit peu les fans des Titans. C'est le système, en tout cas au Senior Bowl, il s'est illustré à cette position-là. Est-ce que il pourra s'illustrer dans cette position-là l'année prochaine et dans les années futures? C'est à voir.
Ça fait en tout cas un lineman de plus, un lineman de talent en plus pour les Lions. C'est devenu une habitude ces dernières années entre les sélections de Nick Ferley, de Ndamu Kongsu. Enfin voilà, ils ont pile des linemen de qualité. C'est aussi une bonne recette parce qu'il faut du pass rush. Hein.
C'est jamais une mauvaise stratégie d'empiler des defensive linemen.
On the clock actuellement, ce sont les Cardinals ? Non, ce sont les Browns. Le choix des Browns est déjà dans la boîte et les Cardinals viennent de passer sur l'horloge. Donc les choses s'enchaînent. Donc les Browns en 6e position, quarterback ou pas quarterback, ils ont Brandon Whedon et Jason Campbell.
Alors, ça dépend de leur évaluation. J'ai entendu dire qu'ils aimaient bien Mingo dans leur système. C'est vrai que ça a du sens. Geno Smith, ils sont fans de Geno Smith également. On a entendu qu'il pouvait trader down aussi. Il y a beaucoup d'options. Maintenant, moi, je suis fan de Geno Smith. Vraisemblablement, beaucoup de GM ne le sont pas. Donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment de l'évaluation qu'ont Joe Banner et les Chiefs sur leur équipe.
Je jette une oreille en même temps que je t'écoute à Ziggy Ansah, j'attends qu'il dise quelque chose d'intéressant, mais je me demande si ce sera pour aujourd'hui aussi. J'ai l'impression qu'il a pas de verre sur ses lunettes, surtout.
Ah, à la Russell Westbrook.
On dirait vraiment des lunettes de hipster, au sens qu'on dirait qu'il a pas de verre. Hein. Je sais pas si c'est. Non, il y a pas de verre sur ses lunettes. Donc c'est un hommage à Russell Westbrook. Oui. Je me demande si c'est pas pour ça que la dame lui parlait de LeBron James, parce que c'est quelque chose qu'il a dû faire aussi. Non, il a pas de verre sur ses lunettes. D'accord. Donc vous pouvez vous rassurer, il n'a pas de problème de vue. C'est juste pour le look. Que l'ami Ziggy Ansah met des lunettes. Réaction sur le chat. Dis-nous.
C'est pour y aller. Le truc de spam.
Ok, donc Ziggy Ansah, on l'a dit, et là, les Browns donc, sont maintenant sur l'horloge. Hop là, on attend. Donc, qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, quarterback ou pas quarterback ? On a dit Geno Smith. Sinon, ils ont quand même pas mal de monde en défense. Mm-hmm. Ils pourraient prendre un receveur. On parle de Tavon Austin comme étant un nom très chaud aujourd'hui. Est-ce que ça serait assez. Est-ce que ce serait trop haut en 6 là ?
Je pense pas que ce soit trop haut. Tavon Austin, c'est un playmaker. Maintenant, ça commence à faire beaucoup de receveurs de qualité. Est-ce que ils souhaitent développer autour de Brandon Whedon ? Dans ce cas-là, prendre un receveur, ce serait une bonne option. Est-ce qu'ils souhaitent passer à autre chose? Il faudrait peut-être construire d'autres postes autrement.
Alors attention, on a l'annonce du choix de Roger Goodell. Barkivius Mingo pour les Browns. Voilà, tu en parlais, tu disais que c'était un bon choix dans leur système. Donc ce sera Barkivius Mingo. Barkivius Mingo. Non, donc je n'ai pas la. Je cherchais sa fiche. Où est-ce que j'ai mis l'ami Barkivius Mingo? Voilà, 22 ans, junior, LSU. 1m94, 109 kg. On l'attendait au milieu du premier tour, mais il est beaucoup monté ces derniers jours. Il est 12e de notre top 50 des valeurs. 13 matchs joués, 10 en tant que titulaire l'an dernier, 38 plaquages, 8,5 plaquages avec perte de terrain, 4,5 sacs, 3 passes déviées, 1 fumble forcé. Dis-nous-en un peu plus. Alors sur Barkivius Mingo, ses qualités.
C'est mon pass rusher préféré de la draft depuis des mois. Il a la capacité, la vitesse, la capacité athlétique. Il a quelques moves, il est solide contre le run malgré son manque de poids. C'est vraiment, si vous cherchez du pass rush, c'est un pur pass rusher dans le même moule qu'un Bruce Irvin, par exemple.
Bon, on voit des images, nous, à l'écran, hein, de Barkivius Mingo, c'est vrai, du pass rusher. Cette défense des Browns, ça va commencer à faire peur, quand même.
C'est vrai qu'avec les acquisitions Paul Kruger, Barkivius Mingo maintenant, ils ont une ligne intérieure qui est vraiment solide. Ils ont un bon cornerback numéro 1. C'est vrai qu'ils peuvent être capables d'arrêter les Pittsburgh, les Bengals, voire Baltimore.
C'est vrai que là, ça commence à être pas mal dans cette division. Il va falloir se cramponner. Hein, si on a un quarterback, ça va être compliqué. Donc, Barkevus Mingo prend. Voilà. Oh, super. Il est Jones, ce Goodell. Vous avez vu un peu ses, comment il leur tape dans la main, comment il les prend dans les bras. Voilà. Hop, Barkevus Mingo. Le maillot était floqué. Ça doit être pour ça qu'on attend aussi quand ils envoient les choix, parce qu'ils font floquer les maillots sur place. Donc, il doit falloir laisser une minute ou deux au monsieur pour qu'il floque les maillots. Barkevus Mingo, donc on l'a dit, va renforcer le pass rush de cette équipe de Cleveland. Les Cardinals sont maintenant sur l'horloge. 5 victoires, 11 défaites l'an dernier. Il leur faut qu'il y ait n'importe quel lineman offensif.
Ça voudrait dire un garde. Et je suis désolé, mais l'histoire de la draft a montré qu'un garde n'est pas pris dans le top 10. C'est pas une position suffisamment importante pour être prise dans le top 10. Maintenant, Jacksonville a pris un right tackle à numéro 2, donc tout reste possible. Mais je serais étonné de voir Warmack ou Cooper arriver dans le top 10. Si on exclut un lineman offensif, il y a énormément de postes vers lesquels ils peuvent se diriger. Peuvent prendre Demi Liner, peuvent prendre un lineman, un DL intérieur comme Starlo Tulelei, comme Sharif Floyd qui tombe.
C'est vrai que Lotulelei et Floyd, alors Lotulelei était quatrième je crois de notre top 50 et c'est en train de tomber de plus en plus bas pour lui. Est-ce que ce problème de cœur il a fini par les inquiéter ou c'est vraiment juste sa valeur, comme ça il n'y a pas de besoin et ça descend quoi?
Des fois c'est peut-être même une impression, tu sais, les gens on a contrôlé médicalement son cœur, mais il y a toujours un petit doute qui est
moi,
pas fondé
ça joue,
et ça joue psychologiquement, même si c'est pas rationnel.
Non, ça, à mon avis, ça joue toujours un peu. 58 sacs autorisés la saison dernière, hein, c'est pour ça qu'on en parlait de la ligne offensive. Maintenant, ils ont Carson Palmer, il va falloir le protéger un petit peu. Ils vont récupérer les Levi Brown, bon, qui était blessé, c'est vrai qu'il y a ça à mettre à leur crédit. Un peu de pass rush, donc tu disais, les linemen intérieurs, ça peut être pas mal.
Ça peut être une option.
Avec Dockett et Darnell Dockett et Calais Campbell, ça ferait une belle ligne. Hein.
Avec Starlo Tulelei au milieu, ça commencera à faire peur, hein, même au Seattle, même au San Francisco. Et aux pauvres Rams à côté.
Ça pourrait être pas mal. En effet, cette division commencerait à faire peur. Qu'est-ce qu'ils pourraient prendre d'autre? Sinon, mon coureur, c'est un peu haut. Receveur, pourquoi pas? Tavon Austin aussi, non? Ils ont déjà pris l'an dernier Malcolm Floyd qui a déçu.
Ils sont pas liés à Malcolm Floyd parce que tout le staff a changé. Donc Tavon Austin peut être une possibilité. De toute façon, une arme différente à la passe.
Ok, bon, les Cardinals, qu'on attend toujours en sélection, hop là, on est en train de regarder un peu hein, ce qui se passe sur ESPN pour voir si on a des pistes, hop là, et donc on a toujours personne qui sélectionne, pourtant on devrait plus être très loin hein, du côté d'Arizona d'avoir fait...
Il y a peut-être un trade en négociation également.
La sélection, il pourrait y avoir un trade qui se prépare. On rappelle un petit peu peut-être les choix qui ont déjà eu lieu. Donc en numéro 1 c'était Eric Fisher, en numéro 2 c'est Luke Jokel, en numéro 3 c'était Dion Jordan. Ensuite on a eu, j'espère que je dis pas de bêtises,
non, tu dis pas
c'était
de bêtises.
Dion Jordan. Les Eagles ont pris donc... Lane Johnson, et derrière c'était Zeke Ansah
et Barkevius Mingo
chez Cleveland. Hop, là on attend toujours ce que font les Cardinals, qui mettent autant de temps à choisir qu'à protéger leur quarterback sur le terrain. C'est un petit peu le problème pour eux. Et voilà, et donc nos collègues de ESPN rappellent hein, qu'il faut bloquer beaucoup de joueurs. Voilà, ça arrive du côté d'Arizona. Et c'est donc Roger Goodell qui est là avec le 7e choix de la draft 2013. Les Arizona Cardinals sélectionnent... Je vais plus vite. Jonathan Cooper, et voilà, un lineman offensif, l'offensive guard de... J'ai entendu un petit ouais, non ? C'est Johan qui a lâché un petit ouais. Jonathan Cooper, un garde de 23 ans qui sort de North Carolina, 1m91, 134 kg, 7e de notre classement des valeurs de notre top 50. Tu as l'air un peu surpris, Guillaume, un peu opposé pour un garde.
C'est quand même le garde qui a été sélectionné le plus haut depuis des années, des décennies, je sais pas, il faut que Johan vérifie ça, mais a priori c'est pas un poste important. L'attaque de Bruce Arians a besoin de protéger ses quarterbacks.
Et d'ouvrir la route un peu aussi pour ses coureurs.
Absolument. Il avait des tackles qui sont pas exceptionnels, mais qui sont corrects. Renforcer l'intérieur de la ligne, ça a du sens. Maintenant, un top 10 pick, je sais pas si c'est une bonne utilisation du pick. Cooper au-dessus de Warmack, on peut en discuter également.
Oui, alors c'est surtout ça la surprise, non ?
Ouais, c'est étonnant parce que j'avais cru comprendre que Bruce Arians utilisait une ligne qui est puissante, qui marche sur le run, sur la play-action. Mais là, Cooper, c'est le plus mobile des deux, le plus athlétique. Peut-être que Cooper, c'est justement celui qui a le plus de potentiel au final que Warmack.
Ouais, donc c'est vraiment un choix sur le potentiel de la part des Cardinals. Alors on voit quelques images. Donc Jonathan Cooper, dont la fiche draft était en ligne sur le site il y a très peu de temps. Un choix, moi ça me paraît un choix logique. Bon, ils font aussi par rapport au talent qui est là. Ils ont fait un peu par rapport à leurs besoins aussi, parce que c'est vrai que Shari Floyd, comme on le disait, aurait peut-être pu faire peur au milieu de cette ligne avec les talents qu'ils ont déjà. Ils ont fait ce choix de renforcer la ligne qui était quand même un besoin criant l'an dernier. Bon, ça se conteste pas.
Si on commence à partir du principe, comme un GM anonyme l'a dit il y a quelque temps, que c'est la pire draft depuis 10 ans, on se dit peut-être que des prospects sûrs comme Cooper, qui paraît être quand même une valeur sûre, c'est un choix qui va monter plus haut du fait du manque de valeur dans le top 10.
Bon, en tout cas, un choix, encore une fois, plutôt sûr. Voilà, pas de risque. Peut-être un peu haut pour la position, mais c'est un joueur intéressant. Buffalo arrive en 8e position. Un seul échange, on le rappelle pour le moment, ce sont les Raiders qui ont lâché leur 3e choix aux Dolphins. Le 3e choix des Raiders, d'ailleurs, qu'on annonçait comme très demandé. C'est le seul qui a bougé pour l'instant. Donc les rumeurs étaient vraies. Buffalo est donc l'équipe qui est sur l'horloge actuellement. Il leur reste 5 minutes 37 pour sélectionner. Buffalo, donc, qui était à 6 victoires pour 10 défaites l'an dernier, qui peut chercher un quarterback éventuellement, puisque Kevin Kolb est arrivé, mais c'est peut-être pas une solution à long terme. Ryan Nassib, est-ce que... Ah, alors attention, on a un échange, et ce sont les Rams qui sont désormais sur l'horloge. Voilà, je range mon analyse sur les Bills, parce qu'on va en parler un peu plus tard pour l'instant. Et voilà, et là par contre, on a vu un joueur au téléphone. On a vu un joueur au téléphone, et c'est l'ami Tavon Austin, les Rams donc de Jeff Fisher qui sont sur l'horloge, eux ont besoin d'un receveur. Danny Amendola parti, les Jones que sont Chris Grimmens et Brian Quick, ça fait peut-être léger et ça fait peut-être Tavon Austin.
Tavon Austin, c'est une arme qui va que l'on peut, on va dire, nourrir, ou en tout cas on peut lui donner des munitions de façon assez simple. On a Bradford. On ne sait pas encore si c'est le vrai, le bon quarterback. Et justement, Austin, on peut lui fournir le ballon de façon peut-être plus simple que dans un système plus traditionnel. C'est vrai que quand on a un top receveur du type que Megatron et AJ Green, c'est facile de lui donner le ballon. Tavon Austin va produire sans forcément avoir le bras, avoir la vision. En fait, Tavon Austin, on le met en position d'avoir le ballon assez facilement et il produit de lui-même.
Tavon Austin, donc, on suppose, parce que tout à l'heure on a supposé que l'échange des Miami Dolphins était pour Jonathan Cooper, ça s'est révélé être Deion Jordan. Là, on suppose que c'est pour Tavon Austin, et on l'a dit, encore une fois, une rumeur qui s'avère être vraie, que pour avoir Tavon Austin, il faudrait monter au-dessus des Jets, au-dessus de la 9e position. On est en 8e position. Les Rams donc ont pris le choix des Bills, et donc on voit Tavon Austin à l'écran. On l'a vu, je sais pas si c'est lui qu'on a vu au téléphone d'ailleurs, mais donc Tavon Austin est le favori pour partir à cette 7e position chez les Rams. On attend encore un peu, c'est pareil, je sais pas ce qu'on attend quand le trade est fait, parce que je suppose qu'en général s'ils ont fait l'échange, ils savent qui ils veulent prendre. Donc on attend de savoir on attend le flocker à mon avis. On attend le flocker qui doit faire le maillot en vitesse. Donc c'est Rams en tout cas qui reconstruisent bien sous Jeff Fisher. Hein.
Le processus est en cours, ils sont dans une division qui est très difficile. Ils essayent d'ajouter de la qualité par tous les moyens que ce soit, et je pense que Tavon Austin c'est une bonne option pour développer l'attaque. C'est vrai que les alternatives, que ce soit en ligne défensive, ils ont adressé la ligne défensive l'année dernière. À l'intérieur, ils sont deux bons edge rushers. Jimmy Leaner chute, mais il vaut peut-être pas le coup de trader up pour lui. Si Tavon Austin montre tout ce qu'il a montré à West Virginia, c'est l'option première.
Tavon Austin, donc, qui devrait être le choix des Eagles, des Rams, pardon, je m'embrouille entre les deux. Donc, qui devrait être le choix des Rams, ce serait un peu le premier joueur un peu flashy. Bon, allez, on va dire Dion Jordan et Ezekiel Ansah, c'est peut-être. Mais c'est vraiment le premier joueur flashy d'attaque.
Ouais, c'est le premier joueur qu'on peut drafter en fantasy, par exemple.
C'est ça. C'est le premier joueur de fantasy football qu'on voit exactement sur la draft.
Et ça, mine de rien, ça a un impact sur la connaissance des joueurs, donc voilà.
On rappelle, donc là c'est le 9e choix qui est sur l'horloge, donc ça veut dire qu'on est déjà passé au choix suivant, qui sera celui des Jets.
Alors apparemment d'après NFL c'est un gros trade du coup, parce que
alors
les Rams donc ont pris le choix 8 et prendraient le choix 71 des Bills. Et en échange, les Bills passeraient en numéro 16, obtiendraient le choix 46 et 78 et 222.
Oula, 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 oula.
Donc en fait, les Rams récupéreraient deux choix des Bills et les Bills en échange 4 choix des Rams, a priori.
4 choix des Rams.
Ouais, c'est ce qu'a l'air.
Alors on va avoir le compte rendu de tout ça. Oui, en effet, gros trade bien compliqué de ce côté-là. On attend d'avoir la réponse. Voilà, Roger Goodell arrive. Alors, Roger Goodell nous confirme que les Bills ont échangé leur choix. Et avec le 8e choix de la draft 2013, les Rams choisissent Tavon Austin. Et oui, c'était donc bien ce qu'on attendait. Un receveur de West Virginia, il a 22 ans, il fait 1m73. Il est petit quand même, Tavon Austin. D'ailleurs, il est moins grand que sa mère, visiblement. Et une belle veste Bordeaux. Donc 1m73 pour 79 kilos. On l'attendait milieu fin de premier tour, mais ça c'était il y a bien longtemps parce qu'il est monté en flèche. 13e joueur de notre top 50. Et donc là il sort en 8e position. En 2012, 13 matchs, 72 courses, 643 yards. Donc ça c'était au sol parce qu'il peut faire beaucoup de choses. 3 touchdowns au sol. 114 réceptions, 1289 yards, 12 touchdowns. Ça c'est à la réception. 1 touchdown sur retour de punt, 1 touchdown sur retour de kickoff. C'est vraiment une arme hyper explosif, Tavon Austin. Hein.
C'est une arme qui est multidimensionnelle. Où qu'il soit sur le terrain, vous pouvez faire quelque chose avec lui. Il court la balle, un petit peu comme Percy Harvin. Mais au contraire de Percy Harvin, vous pouvez le mettre sur un tracé vertical, lui envoyer un ballon profond, et il va s'ajuster à ce ballon, et il va être une menace dans tous les cas. Il va arriver dans une attaque qu'a déjà CJ Spillers dans le backfield, qu'a déjà Steve Johnson de l'autre côté. Donc
attention, ils ont échangé. Ils ont échangé. Rappelle-toi qu'il va au Rams.
Ah, pardon. Donc il va au Rams. Donc là, oui, ce sera vraiment la cible numéro 1 de Sam Bradford. C'est une attaque qui est vraiment, on va dire, il y a pas beaucoup de monde dans l'attaque. À part Sam Bradford, il y a une ligne offensive qui reste correcte. Les receveurs, il n'y a pas grand monde. En tight end, il n'y a pas grand monde. Ils ont perdu Steven Jackson. Ça devient vraiment la cible numéro 1. Je pense que c'est beaucoup à mettre sur un rookie. il y a encore du boulot au niveau de l'attaque chez Saint-Louis.
Bon, en tout cas, ça fait quand même une sacrée cible de plus pour Sam Bradford. Il en avait bien besoin après le départ de Danny Amendola. Et il a jamais vraiment eu de receveur numéro 1 quasiment hein, depuis qu'il est à Saint-Louis. Amendola avait une santé beaucoup trop fragile pour qu'on puisse vraiment le considérer comme un receveur numéro 1. Donc c'est vrai que c'est plutôt... plutôt une bonne nouvelle pour les Rams, voilà. On va passer aux Jets qui ont le 9e choix. On vous rappelle donc, qu'on fera une petite pause après le 10e choix. Raphaël.
C'est ça, ça se confirme que les Rams, pour prendre le choix des Bills, ont donné leur... attendez que je dise pas de bêtises. Donc les Bills sont passés 16e à la place des Rams. Et en plus, les Bills ont reçu le choix 46 des Rams apparemment. Le choix 78 et le 222. Le choix 222, et en échange, les Rams, eux, donc, ont drafté Tevin Austin et ont reçu le choix 71 des Bills.
Ok, donc voilà, gros échange. On attend la confirmation officielle de qu'on l'aura à l'écran. De toute façon, on vous la donnera aussi.
J'ai quand même cette petite impression, c'est que Tevin Austin aurait été un... J'ai même fait la confusion en partant sur mon analyse, c'est que Tevin Austin aurait été un bien meilleur pick pour les Bills que pour les,
ouais,
que pour les Rams.
Il le laisse passer d'ailleurs. Ouais. Donc, parce qu'il l'avait du coup à portée de main, on a dit qu'ils étaient pas mal. Alors l'autre intrigue, c'est que les Bills, du coup, pas de quarterback non plus. On attend toujours d'avoir un quarterback. Les Jets sont sur l'horloge. Eux, ils ont Mark Sanchez, Tim Tebow, David Garrard. Normalement, ils devraient pas prendre de quarterback non plus.
Ah, pardon. Je suis pas sûr.
Excusez-moi, on parle des Jets. Donc, on disait, les Jets vont sûrement pas prendre un quarterback.
Avec cette collection de Hall of Famer que tu viens de me citer, c'est vrai que c'est douteux. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y a un nouveau régime. Rex Ryan, le nouveau GM pourrait prendre un nouveau quarterback, mais je suis pas sûr que Rex Ryan voudrait s'attacher à un rookie pour sauver sa carrière au point où il en est.
Ouais, alors après, quel pouvoir de décision à Rex Ryan, c'est aussi la nouvelle inconnue avec le GM Jeff Hitzik qui est en place depuis quelques semaines et qui vient d'envoyer Darrell Revis à Tampa Bay alors que Rex Ryan voulait le garder. C'est aussi une inconnue.
Dans un sens, si vous laissez pas en tant que nouveau GM du pouvoir de décision à votre nouveau coach, il va mal utiliser et mal développer les joueurs que vous lui fournissez. Ça reste main dans la main.
Bon, au niveau des besoins des Jets, on est loin de l'époque où ils avaient l'air blindés. Des safety, ce serait pas mal parce que Aaron Landry et Jeremy Abel sont partis. Du pass rush, ce serait pas mal aussi.
Ils ont toujours eu besoin d'un pass rusher principal. Ils ont beaucoup compté sur les schémas de Rex Ryan jusqu'à présent. Ils ont jamais eu ce pass rusher, ce Terrell Suggs par exemple, dans leur défense. Un DL intérieur, ça serait effrayant entre Mohamed Wilkerson, Starlo Tulelei et Quinton Coples qui a été drafté l'année dernière. Ça pourrait faire très peur, notamment à Tom Brady qui déteste la pression intérieure. Donc il y a des options.
Il y a des belles cibles en défensive encore. Hein, ouais,
peut-être ne pas oublier un cornerback avec le départ de Darrell Revis, pourquoi pas.
Notamment.
Jimmy Liner a dit que les Jets l'aimaient beaucoup. On est à la 9e place, c'était ce qu'on attendait à peu près hein, pour Jimmy Liner.
C'est un choix qui a beaucoup de sens, ouais.
En tout cas, Jimmy Liner qui a été pas mal opéré, hein, je crois, en plus qu'il y a des petits pépins de santé. Donc ça met une inconnue de plus. Donc du pass rush, ce serait pas mal. Un coureur, ce serait pas mal, mais ça va être loin. Peut-être un receveur aussi, mais maintenant Tavon Austin est passé, il l'aimait sûrement beaucoup.
Un quarterback,
pourquoi peut-être. Pas. Bon, en tout cas, les fans des Jets sont présents en nombre, hein, forcément, puisque la draft a lieu à New York au Radio City Music Hall. Il en reste 1 minute 20 aux Jets pour choisir. Donc, on s'approche de l'échéance fatidique pour eux. On vous le rappelle, hein, après le 10e choix, on fera une petite pause d'une petite minute, histoire de prendre un verre d'eau. Et puis, on vous reviendra très rapidement. Ça discute donc sur le choix des Jets. Les Jets qu'on attend, ça peut toujours être une grande surprise. Ce sont un peu nos nouveaux Raiders, les Jets.
En tout cas, ces dernières années, oui, ça a été vraiment le cas. Ton jingle était approprié.
Des pronostics, Raphaël, sur le chat.
Malheureusement, comme c'est sur les Jets, on a beaucoup de plaisanteries plutôt que de vrais pronostics sérieux. Bien que certains appellent à Geno Smith pour les Jets. Mais ça peut sembler quand même un peu étonnant que Rex Ryan joue sa carrière sur un quarterback rookie.
Gino, je vois Mantai Teo.
Ouais, Mantai Teo, tout le monde veut
Mantai Teo. Et Tim Thibault ensemble, ouais. Ce serait beau, hein, faut avouer. Alors là, on a vu
ça concentrerait le cirque.
On a vu un synthé avec Jimmy Linner. Jimmy Linner, ça peut être une solution, ouais. Et on insiste largement sur lui.
Ouais, Barclay aussi, on parle.
Voilà, donc après, Matt Barclay, oh, ça me paraît. Oh.
Après le costume de voiturier de Tavon Austin, on a la jolie veste, jolie veste boulanger, je crois.
La petite veste de trois pièces. Il a bossé à la Micheline l'été dernier, Jimmy Linner. Sur les mock drafts, on n'a toujours aucun choix de bon, Raphaël, je crois, non ?
Non, pour le moment, aucun. On arrive au 9e pick et il n'y en a pas un seul de bon. Désolé, hein.
9e choix, ça c'est vraiment de la draft imprévisible. J'ai pris un temps d'arrêt parce que j'écoutais Adam Schefter qui parle de Jimmy Linner. Alors voilà, opéré du tibia, opéré d'une hernie, un scope du genou, voilà, opéré après la saison. Jimmy Linner, il y a beaucoup d'interrogations, donc ça pourrait être un bon gros bust et donc les Jets pourraient le sélectionner.
Xavier Rhodes peut être une possibilité, il correspond peut-être un peu plus au système, c'est un cornerback un peu plus physique.
Et alors c'est parti, qui voilà ? L'ami Roger Goodell est là, il a le sourire, lui aussi il sait que c'est drôle quand c'est les Jets. Avec le 9e choix de la draft, les Jets choisissent Jimmy Linner, et voilà, un defensive back, donc un cornerback d'Alabama. Jimmy Linner, le meilleur cornerback, annoncé dans cette draft. Jimmy Linner, dont je vais retrouver les mensurations dans une seconde. Il a 21 ans, il est junior, il sort d'Alabama. Il fait 1m85 pour 90 kilos, on l'attendait dans le top 10, il est donc 9e. Il était 11e de notre top 50 des meilleurs joueurs, classé donc par talent. 12 matchs joués en 2012, 51 plaquages, dont 4 pour perte, 1,5 sac, 2 interceptions, 18 passes déviées. Jimmy Linner, donc héritier de Darrell Revis, en tout cas.
C'est beaucoup lui demander, je pense.
Alors moi, je suis assez surpris. Tiens, je vais commencer sur celui-là. Pourquoi Jimmy Linner, alors que, bien sûr, ils perdent Darrell Revis, mais ils ont quand même Antonio Cromartie et Kyle Wilson, voilà, qui sont pas des manchots, qui sont une paire plutôt au-dessus de la moyenne. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses à régler avant ?
J'ai vraiment un doute sur cette sélection. Donc oui, il y a peut-être une solution à trouver, déjà au poste de quarterback, parce que c'est vraiment lamentable ce poste-là. Il faut faire quelque chose. C'est New York City. Il faut créer un petit peu d'excitation et pas de ridicule. Je suis un petit peu assommé par le fait qu'il persiste et signe dans ce cirque qui est devenu le poste de quarterback à New York.
Ouais, bon, ça, c'est vrai que c'est un débat, c'est encore un autre débat, mais c'est vrai que bon, c'est assez étrange, ouais, qu'il reste là-dessus et qu'il ne se soit pas encore débarrassé de Tim Thibault, notamment, parce que ça devrait être fait depuis 10 ans pour éviter qu'on en parle encore, et c'est vrai que c'est assez compliqué. En tout cas, donc je te vois regarder les mock drafts, Raphaël, je suppose que celle-là, on l'avait pas non plus.
Non, mais c'est surtout que je suis en train de me dire, en regardant les équipes qui restent, je vois pas trop qui va drafter Geno Smith, à part les Bills finalement qui restent. Mais...
Donc les Bills sont redescendus à quelle position alors ?
16e à la place de Saint-Louis.
D'accord.
Et derrière, je me dis que, enfin, à part peut-être les Chargers qui tenteraient, mais ça me paraît bizarre de remplacer Rivers.
Ouais.
Donc c'est vrai que dit comme ça, peut-être Tampa Bay qui veut mettre un peu de pression à Josh Freeman.
Ou Houston.
Avec un premier choix, ça me paraît haut tout ça. Hein.
Tampa Bay, alors, a priori, le head coach de Tampa Bay, j'ai oublié son nom. Et,
non, on dit...
Et relativement seul, mais c'est
non,
le seul à ne pas aimer.
Non, c'est surtout que Tampa Bay, en fait...
Et Tampa ne sélectionne
pas
le premier
tour.
Ah
oui, c'est vrai. Donc les Jets pourraient en fait finalement le récupérer avec le pick 13.
Ouais.
Geno Smith, peut-être.
Ah oui, alors les Jets ont encore un choix, de toute façon, oui, dans quatre sélections. Donc on remettra la blague alors du jour. Maintenant, ce sont les Titans qui sont sur l'horloge. 6 victoires, 10 défaites l'an dernier. Ils ont pris quelques grosses fessées. Une défense vraiment en galère. Ligne offensive pas excellente pour ouvrir le chemin. Chance Warmack veut jouer pour eux. On parlait d'offensive guard tout à l'heure. Un des meilleurs offensive guard de la draft. Grosse possibilité là.
C'est une possibilité parce que Chance Warmack l'annonce. Maintenant, j'ai vraiment aucune idée de ce que les Tennessee Titans vont faire. C'est vraiment le facteur X, l'aléatoire. Ils peuvent aller dans un nombre de directions vraiment nombreux. J'ai appris ou qu'il y a une rumeur qu'ils essaieraient de passer dans un système 3-4, et dans ce cas-là, ils auraient besoin d'un linebacker pass rusher. Jarvis Jones, c'est peut-être une possibilité, même si c'est un peu haut. On ne sait pas exactement sa valeur. Est-ce que les gens vont se faire influencer par sa production ou son film, ou le fait qu'il était dans une grosse division, dans une grosse école. Jarvis Jones peut aller de ce point-là jusqu'au deuxième tour, donc ça peut être une possibilité pour les Titans. Il n'y a plus vraiment, pas vraiment de receveur qui est potentiel. Je veux dire, Kenny Britt est toujours un souci à Tennessee. Alors, on a le Titan qui est possible, mais
ils ont dit qu'ils cherchaient aussi un cornerback qui puisse jouer en homme à homme.
Xavier Rhodes peut être une possibilité, ouais.
Donc on rappelle, on est à la 10e position, on arrive donc tout doucement presque au tiers de cette draft. On va peut-être faire la pause après le 10e ou le 11e choix. On vous laissera pendant une ou deux petites minutes. Donc ensuite ce sera les Chargers s'il n'y a pas d'échange. Les Tennessee Titans, des pronostics sur le chat, Raphaël.
Au niveau des pronostics, beaucoup parlent de Chance Warmack, qui me semble en plus a fait un appel du pied aux Titans dans la semaine.
Oui, on l'a relayé sur le site en effet. Ouais.
Donc on a Chance Warmack qui revient pas mal, et ensuite.
Ça me paraît être le choix, je sais pas, le plus.
Ouais, c'est d'ailleurs.
Vu la philosophie de cette draft et des choix qu'ont fait les GM, c'est dans la continuité.
Et là, on n'aurait pas de quarterback dans le top 10. Il va sûrement falloir remonter très très loin pour trouver une draft sans quarterback dans le top 10. Parce que
certains se demandent si Geno Smith pourrait être pris par les Titans. Est-ce que c'est une possibilité, est-ce que c'est envisageable?
Il n'y a pas eu de changement de general manager, il me semble. C'est toujours le même general manager qui a sélectionné Jack Locker. Il faudrait vérifier ça. Généralement, ils n'ont pas de choix et ils changent pas leur choix, surtout s'il s'avère qu'ils se sont trompés.
Bon, en tout cas, les Titans donc arrivent tout doucement. On nous rappelle encore un peu l'ordre. Eric Fisher, Luke Jokel, Dion Jordan. Ça, c'est le top 3. Et j'ai du mal encore à me rappeler des 4. Raphaël, c'est toi qui as la liste devant les yeux des choix qui ont eu lieu. Hein. Ah, voilà. Alors là, il nous reste quand même Shari Floyd et Starlo Tulelei aussi, ouais. qui pourraient être pas mal pour nos amis de Tennessee, surtout. C'est pas comme s'ils avaient d'énormes choses au milieu de la ligne.
Oui, ce serait pas un mauvais choix dans l'absolu. Dans leur idée de construction d'équipe, ce serait un choix honnête. Ouais.
À noter que sur les réseaux sociaux, notre très cher Marshall Faulk a déclaré qu'au sujet de Tavon Austin, que Sam Bradford était le quarterback le plus chanceux de la ligue avec ce choix. Recevoir Tavon Austin. Alors, donc on croit beaucoup à Tavon Austin du côté des Rams apparemment.
Si Marshall Faulk le dit, c'est quand même que c'est du sérieux. Raphaël, est-ce que tu aurais par hasard le tracker pour nous rappeler l'ordre des choix qui ont eu lieu?
Oui, on va vous trouver
ça. S'il te plaît,
pour
notre top 10.
Alors, tu me dis quand...
Vas-y, on t'écoute.
Tu es ready. Alors, Eric Fisher en choix numéro 1 par les Chiefs. En choix numéro 2, Luke Jokel par les Jaguars. Choix numéro 3, grâce à un trade, les Dolphins qui ont pris Dion Jordan. Choix numéro 4, les Eagles qui ont choisi Lane Johnson. Choix numéro 5, les Lions avec Ziggy Ansah. Choix numéro 6, les Browns avec Barkevius Mingo. Choix numéro 7, les Cardinals avec Jonathan Cooper. Choix numéro 8, les Rams, grâce à un échange, qui ont sélectionné donc le fameux Tavon Austin. Et choix numéro 9, les Jets qui ont pris le cornerback Dee Milliner.
Merci donc Raphaël pour ce rappel, et on va boucler ce top 10 avec nos amis les Titans. Donc on l'a dit, qui pourraient chercher un peu partout. Hein. C'est vraiment une équipe qui a pas spécialement de... qui n'a pas de grosse qualité mais pas de gros défauts. Enfin, si, ils ont des gros défauts partout et aucune grosse qualité. Donc ils pourraient prendre un playmaker un peu n'importe où. Quoi.
Ah, absolument. Je pense
en dehors de Chris Johnson.
Tavon Austin aurait pu être une très bonne possibilité pour les Titans. Ils peuvent aller. Il y a étonnamment beaucoup d'équipes qui peuvent aller dans des directions très différentes en fait. Ce serait un upgrade assez souvent.
C'est vraiment une draft quand même très 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 étrange, ouais. Très très étrange, parce que tout le monde peut aller n'importe où, on n'a aucune idée des choix, et il y a des joueurs quand même plutôt bons qui sont en train de chuter. On n'a pas de quarterback, Geno Smith est en train de chuter. Bon, est-ce qu'on va avoir... Alors, on va couper, on va écouter, parce que Roger Goodell est parmi nous. avec le 10e choix de la draft, les Tennessee Titans sélectionnent Chance Warmack, et voilà, l'offensive guard donc qu'on attendait quasiment, hein, qu'on annonçait, que lui voulait jouer à Tennessee. Il a ce qu'il veut, parce que je crois qu'il doit être du coin. C'est pour ça qu'il a dû demander. Il n'est pas très très loin de sa maison, hein, si j'ai bien compris. Donc Chance Warmack, left guard de 21 ans, senior d'Alabama. 1m91, 145 kg, un beau bébé encore. On l'attendait dans le top 20. C'était carrément le numéro 2 du top 50 des talents purs qu'avait fait Johan, qui est avec nous. Très joli ventre qu'on voit sur les trucs. Il faudrait lui acheter des maillots à sa taille en NFL.
Ouais.
Lui acheter des maillots à sa taille en NFL, parce que là, c'est carrément obscène. Donc l'ami de Chance Warmack, donc bon choix, solide quoi.
Ça reste la philosophie de cette draft qui est un petit peu pas trop de trip quoi. On prend
c'est une draft de froussard.
Voilà, on va dire ça. Aujourd'hui qui c'est le franchise player des Titans, c'est Chris Johnson.
Chris Johnson et puis Jake Locker quoi.
Aujourd'hui, c'est plus Chris Johnson. Il y a moins de questions sur Chris Johnson et il faut lui faire plaisir. Dans le même sens, un guard peut protéger Jack Locker, mais l'idée, c'est vraiment de faire produire Chris Johnson.
Je crois qu'on a une alerte. Quelqu'un avait bon sur ce choix.
Alerte. On marque le premier point de la soirée. C'est Alain qui le marque puisqu'il avait trouvé Chance Warmack pour les Titans.
Yes, je mène 1-0.
Au bout de maintenant 10 choix, un de nos fameux chroniqueurs a un bon choix.
Au bout de 10 choix. On vous laisse une petite minute, messieurs, dames, avec un petit jingle, peut-être un petit blanc derrière, mais on vous reprend tout de suite après, dans quelques secondes.
Luck in the pocket. He throws middle, caught, touchdown. What a throw by Andrew Luck. Griffin 12 of 14, 118 yards passing, in trouble here. And doesn't go down. Griffin inside the 10. Heisman touchdown.
First pick of the draft, the Indianapolis Colts select.